R22 Tout le monde, antenne Kiasma.
L'idée, c'est que la disposition est vraiment construite comme un espace de réserve qu'on peut visiter. Et cet espace de réserve, en fait, au long de l'exposition, des pièces sont prises de l'espace de réserve, sont mises dans l'espace d'exposition et d'autres, au contraire, sont ramenées dans les... Donc, l'exposition est entièrement construite comme un espace, comme une variation autour d'une thématique qui est là aussi une thématique océanique et la thématique du voyage, mais qui va aussi jouer sur un rapport de contamination du sens, d'apparition, de cauchemars, la traversée atlantique avec tout ce qu'elle draine comme histoire et comme, comme mythe. Quoi.
Ça me parle, ça.
Voilà,
la traversée de l'Atlantique.
J'imagine bien.
Bon, écoute, c'est très bien. Ah oui. Bonsoir. Je prends la parole d'une façon à laquelle je ne suis pas habitué, puisque je suis plutôt écrivain, ethnologue, performeur, et on m'a appelé pour faire l'audio guide, ou pour faire fonctionner l'artiste comme audio guide, pour l'inciter à réagir à ce qu'il propose ce soir d'une façon un peu différente de d'habitude, pour l'empêcher de parler en boucle. Mais je trouvais bien de commencer par cette carte, d'abord parce qu'elle peut nous faire croire que c'est le plan de l'exposition, en fait non, mais c'est toujours rassurant d'avoir une carte sous les yeux. Et puis surtout, plus sérieusement, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle rejoue la disposition du commerce triangulaire, qui a été tellement importante dans notre histoire et dans l'histoire encore contemporaine de l'Europe, entre l'Afrique, l'Europe, et puis ces petits bouts de Nouveau Monde qu'on voit à peine, qui sont surtout en hors-champ. Et en même temps, cette géographie, c'est pour toi une géographie intime, puisqu'elle correspond à... Les endroits que tu pointes sont des endroits où tu as installé des cairns. Alors j'avais peut-être envie de commencer par te demander de parler de ce rapport entre la grande histoire et la petite, tout simplement.
Pour la petite histoire, d'une certaine manière, ça retrace un parcours qu'on observe par ces épingles, en fait, qui situent en effet des cairns, comme des balises, comme des repères, en fait, comme un sentier balisé, aussi comme des bornes qui délimitent un territoire. Et mon frère Laurent... D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc une grande pensée à Olivier, à Laurent, ouais. Et qui m'a emmené. Donc, on est partis tous les deux avec d'autres personnes pendant 7 mois à travers l'Atlantique pour retourner d'une certaine manière sur un territoire sur lequel on avait grandi en Martinique. Et donc, je suis parti avec un caillou en poche, avec dans ma tête cette expression anglaise qui s'appelle Raising Cain, réveiller Cain, qui signifie. Un état de colère. Je suis parti avec ça en le transformant. C'est le titre de la pièce, Raising Cairn, élever un cairn. Donc, je suis parti avec un caillou en poche.
Donc avec ce jeu de mots entre cairn
et le cairn. Cairn, voilà. Donc je suis parti avec ce caillou en poche pour baliser un territoire. Et comment baliser un territoire avec un caillou? Je l'ai pris en charge, comme une charge avec moi. Et puis à chaque fois que je tombais sur un autre caillou qui m'intéressait, sur un lieu spécifique qui m'intéressait pour une histoire personnelle ou historique, je reconstruisais un cairn au-dessus de ce caillou, et puis le dernier caillou, je le mettais en poche. Et ainsi de suite, j'ai baladé comme ça des cailloux qui étaient une espèce de contamination de territoire en territoire et qui balisaient un certain terrain. Donc on finit ici, en fait, on finit ici. Le dernier point, c'est ici. C'est ce caillou qui a été ramassé donc, dans les voyages alsaciennes. À côté de mon atelier, mon lieu d'habitation. Et donc, que je présente ici sur, en fait, posé comme un empilement sur la source même, qui fait partie, en fait, d'une page tirée d'une Bible de l'Ancien Testament, et donc la Genèse et le récit de Cain et d'Abel. Il faut savoir aussi que le Cain, c'est jusqu'au 19e, c'est un des motifs qui justifiait l'esclavage. C'est-à-dire que le peuple de Cain, le peuple noir devait au peuple blanc, d'une certaine manière, rétablir un équilibre et donc se racheter. Donc c'est une œuvre aussi sur la rédemption, sur une prière, sur le baliser un terrain, ancrer en mémoire quelque chose qui finalement tout le monde passera à côté sans faire attention. C'est une balise comme une autre. Les cairns sont extrêmement communs, mais à l'intérieur de ce cairn, il y a une partie d'un autre monde, puisque j'ai prélevé dans un autre monde. Donc c'est une introduction pour... parler de cette migration des mondes que j'essaie d'opérer. Et que voilà, cette installation ici, ce travail qu'on va faire ensemble avec Jocelyn, va nous introduire à cette méthodologie de recherche et de travail.
Alors, tu parles de cette espèce de... Enfin, tu as semé des cailloux, en fait, à travers différents endroits de la planète. Et je trouvais très inspirant que tu choisisses d'intituler l'exposition « SEM », où on entend à la fois, d'abord, peut-être, ce verbe « semer ».«
Tu sèmes ».«
Tu sèmes », comme une adresse à la deuxième personne. Et aussi le « sème », ou « les sèmes », puisque c'est au pluriel, comme unité de sens. C'est une acception beaucoup plus technique, c'est de la linguistique. Des unités de sens. Tu proposes des unités de sens, mais pas une manière de les relier entre elles. C'est-à-dire, c'est juste les cailloux posés ici et là, et le parcours reste à définir. Mmh. C'est ça ?
D'une certaine manière, mais par le parcours, on construit une histoire. Et en fait, on tisse des liens entre des obsessions et qui, d'une certaine manière, racontent une histoire, peut-être une histoire personnelle, mais surtout une histoire véhiculée par un contenant. Je me considère comme un contenant et qui va, à un moment donné, faire jaillir ces morceaux d'histoire par ces connexions possibles.
Les connexions possibles. Alors, SEM, ça appelle la graine aussi. Les cailloux, ils ont un côté infécond en eux-mêmes. Là, ils deviennent féconds par les sens qu'ils véhiculent, par les repères qu'ils constituent, comme autant de balises que tu disposes dans presque tout l'espace de l'exposition. Mais il se trouve qu'il y a une pièce où tu as vraiment disposé des graines, donc où tu fais comme un travail de semeur, pour reprendre une autre image biblique. Peut-être ces graines qu'on peut aller voir maintenant.
L'espace est bien exigu.
Comme on dit dans le métro, il y a de la place au fond. Alors ici, on est dans un espace qui est un peu particulier. Il est dans la pénombre. Il a un côté un peu secret par rapport au reste de l'exposition, et il se trouve que c'est au départ c'est un espace fonctionnel, c'est ta réserve. Et j'avais envie de faire un parallèle entre ces graines que tu présentes dans une disposition de collectionneur comme un simple répertoire, et l'ensemble du fouillis presque qui se trouve sous ta structure et qui servira pour d'autres montages à venir dans le même lieu. C'est l'espace des possibles ici aussi, c'est l'espace des classements possibles.
C'est un espace potentiel en fait. On parle des graines, les graines sont des espaces potentiels, des vies potentielles. Une transformation potentielle. Et chaque objet qui sont ici sont potentiellement des graines qu'on peut planter dans un espace pour générer des ouvertures, de nouvelles connexions et en fait une occupation des sols, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'occupation des sols à côté.
Et ces graines, elles ont des origines de quel ordre ? Elles viennent d'ici et là-bas.
En fait, je récoltais un caillou à chaque fois. Ouais. Et partout où je vais, je récolte des graines. Mais je demande aussi aux personnes qui voyagent de ramener avec eux. On me demande qu'est-ce que tu veux qu'on te ramène des graines. Et c'est collectionner, mais plutôt amasser des potentiels, en fait. Et c'est cette forme-là qui m'intéresse. Et la plupart des pièces que je réalise sont des contenants, d'une certaine manière, qui gravitent. Ou en tout cas qui circulent entre différents lieux. Les sculptures que je fais s'appellent des sondes, donc évoquent aussi cette idée-là. On est de déplacement et d'un monde pour un autre. Voilà.
S'il y a des gens qui veulent rentrer, il y a beaucoup de
place. Oui, c'est comme dans le métro, hein, il y a de la place au fond. Hein.
Il y a beaucoup de place. On est dans le cerveau de Vincent.
Et ah, c'est tout à fait ça.
Installez-vous de manière confortable. Tout le système osseux est plutôt au fond.
Là, madame, vous êtes contre l'hypothalamus, attention. Alors en parlant de cerveau, justement, tu proposes aussi une autre pièce des possibles avec cet ordinateur. Ouais. Où on n'est plus dans du tactile, dans du sensuel, ou pas de la même façon, en tout cas, on n'est plus dans l'évocation d'une graine qui serait celle de la nature, mais il y a bien là encore quelque chose qui germine, en fait, avec cette... C'est à la fois un site, et ça pourrait être une installation aussi, on pourrait la considérer comme une installation. Est-ce que tu peux en parler plus dans le détail de cet archipel, et de cet archipel.org?
En fait, ce que vous verrez si vous tapez archipel au pluriel, avec un S donc, .org, c'est cet espace de travail en fait, que je suis en train de mettre en place depuis maintenant bien 2 ans. Donc là, c'est la nouvelle version qui est inaugurée ce soir, qui va s'agrémenter de nouvelles options pendant le mois, et qui va me permettre de construire les différentes étapes de l'exposition. Une espèce d'amas globulaire, comme ça, d'éléments qui sont... On peut voir les interactions qu'ils ont entre eux, et qui me permettent d'établir des espèces de tables de travail, comme une table sur laquelle on dispose des choses, une table dans laquelle, autour desquelles on se réunit, puisqu'il y a une communauté en train de se constituer à partir de cet outil de travail, et qui nous permettent à un moment donné d'envisager des possibles. Voilà. Donc qui rejouent d'une certaine manière ce qui se passe ici, et ce qui se passe ici aussi. Puisqu'il s'agit évidemment d'une installation, mais également d'une réserve. Ici est contenu tout ce qui va être acté durant les différents moments de cette exposition, différents accrochages de cette exposition. Quoi.
Archipel.org, avec ce point .org qui fait appel vers l'organique aussi, et qui fait que cette opposition entre la graine et l'écran n'a pas forcément lieu d'être, en fait, pour toi. Il y a quelque chose d'organique aussi là-dedans.
Et notamment, on peut imaginer Archipel comme la naissance d'un monde. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les personnes qui vont y travailler vont l'agrémenter, rajouter des éléments, une photographie, un texte, un prélèvement, un document, et vont étendre, d'une certaine manière, chaque élément existe sur un espèce d'atlas, un espèce d'espace absolu, et les relations qu'ils ont les uns les autres, qu'on va établir par le biais d'archipels, vont créer des mondes qui vont se connecter, qui vont se tenir comme des nœuds, comme si chaque élément était lié les uns aux autres, par le biais d'État, par le biais d'utilisation des personnes, qui rejouent un peu ce qui se joue pile-poil derrière le mur, donc cette carte, avec ces fameux cairns, qui relient en fait des histoires différentes.
Oui, dans l'installation de l'exposition, j'imagine que la carte papier et les cartes possibles de cet atlas fonctionnent ensemble.
Comme des parallèles, exactement.
Alors, chez les anthropologues, la façon dont on pense, c'est quelque chose de très important à essayer de comprendre. L'un des livres clés de Lévi-Strauss, c'est « La pensée sauvage ». Et il a son pendant en littérature dans le bouquin de Georges Perec qui s'appelle « Pensée classée »,« Pensée slash classée ». Comme si « pensée » était toujours classée, en tout cas pour Perec. Et je trouve que ça fonctionne en partie pour cette pièce et pour cette exposition. Mais j'ai l'impression que pour toi, « pensée », c'est pas seulement classée, c'est aussi déplacée. Classée et déplacée. Tout le temps déplacer le classement. Peut-être que tu pourrais... développer là-dessus.
On m'a posé la question comment j'avais organisé en fait ce meuble et les objets qui étaient agencés dedans. Donc on pourrait le visiter évidemment quand on aura un peu plus de mobilité. On m'a dit oui, c'est marrant, ça génère en fait un véritable classement. Comment tu as organisé ça? Et bêtement, j'ai dit les plus légers en haut, les plus lourds en bas. Et en fait, évidemment, tout classement en fait permet une certaine lecture, mais permet aussi une grille sur laquelle on peut sauter. Évidemment, des ponts. Donc, il y a des relations qui sont inscrites, et puis il y a d'autres connexions qu'on n'aurait pas imaginées. Et en fait, je travaille beaucoup avec le classement, parce que ça me permet d'ouvrir à un moment donné des champs potentiels de connexions possibles, évidemment par le classement et par ce qui se passe, par des rapprochements qu'on n'aurait pas envisagés préalablement, mais qu'on voit formellement. J'ai envie de dire phénoménologiquement, quoi. Quelque chose vraiment qui se passe là et qu'on n'a pas pensé avant.
Et donc, l'aléatoire, il peut faire l'affaire. Là, tu as classé avec les lourds en bas, les légers en haut, mais ça produit du sens.
Ça produit du sens. En fait, l'enjeu, c'est aussi à un moment donné de construire des systèmes qui nous permettent d'envisager, de penser les choses différemment et après de travailler cette pensée, évidemment. La travailler, la remodeler pour arriver à un moment donné à un équilibre. L'équilibre, c'est évidemment quand on perd pied et qu'à un moment donné, un objet nous échappe. Nous échappe non pas parce qu'il n'a pas de sens, mais ce qui l'ouvre à des sens qu'on n'aurait pas supposés. C'est qu'il commence à nous raconter des histoires. En général, on inflige à un objet une forme, on inflige à un objet une histoire. Et là, il commence à nous infliger des choses aussi. Et une réciprocité, et on travaille avec. Quoi. C'est des partenaires de travail, comme tu l'es, comme vous l'êtes. Quoi.
Alors, dans cet ensemble, on repère à la fois une grande diversité, et puis, comme toujours, quand il y a du varié, l'esprit cherche des analogies. Et de ce côté-là de l'installation, on voit assez vite apparaître une forme qui t'est chère et qu'on va retrouver ailleurs dans l'exposition, c'est la gélule en quelque sorte. Cette espèce de forme qui n'est ni un œuf ni un cercle, mais une sorte de boule sur laquelle on aurait tiré qui s'ouvre, qui est à la fois celle des petites vigies qui sont là-haut, mais aussi celle-là coupée en deux, qui est comme une canasta, ce jeu avec les graines qu'on peut.
Avec les semences.
Voilà. Tout ça évoquant aussi des flotteurs, des bouées. C'est pour moi ce réservoir de formes-là qui est développé dans une partie très importante de la salle d'à côté. Donc c'est ce qui me semble faire le pont entre ces potentialités rangées en attente d'une actualisation, ce récit, tous ces récits possibles, et un récit qu'on trouve dans la grande pièce là-bas où je crois que ce serait bien qu'on aille voir maintenant ces grosses gélules.
Allez, on te suit.
Voilà, moi, en me baladant, je me suis senti bien entre ces trois pièces. Peut-être bêtement d'abord, par analogie en fait, parce que je retrouvais ces sortes de bidibules, ces gélules qui étaient présentes là-bas dans la réserve. Et en même temps, il y avait pour moi une proposition narrative possible et qui me semble rejouer la question de l'esclavage que tu évoques depuis le départ dans la carte qu'on a regardée en premier. Puisque là, il y a la canasta qu'on a vue tout à l'heure refermée, avec des traces de colle très manifestes qui ont un côté violent aussi. Il y a une contention, il y a presque un côté SM dans cette pièce, avec sa ceinture de chasteté, les matériaux, l'acier, tout ça. Ici, on dirait qu'elle se déploie, qu'elle gagne sa mobilité propre, avec un côté conquérant d'ailleurs qui est un peu inquiétant. Et puis, un peu en contrebas, il y a cette pièce que tu appelles l'étoile du matin, et qui là est carrément l'expression non plus de la contention maximum, mais de la possibilité d'exploser absolue, quoi, puisque c'est des bonbonnes de gaz qui ressemblent de prime abord à une bouée ou à une mine. En tout cas, elle suggère voilà, quelque chose comme le renfermé, l'ouverture, et jusqu'à l'explosion. Est-ce que ça, c'est des propositions narratives qui te semblent recevables ? Comment, quel lien tu fais par rapport au désir de raconter une histoire, en fait, à travers une exposition ?
Alors, un truc qui est amusant, c'est qu'évidemment, je pense à un accrochage avec pas mal d'axes pour mes propositions. Et puis, on propose d'autres. Et c'est ça que j'essaie d'opérer. Alors, évidemment, ça fonctionne parce que il y a les mêmes obsessions qui relient tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a derrière tout ça, en fait, j'apprends à me connaître et j'étudie au-delà de moi-même, en fait, peut-être des obsessions culturelles. Donc il y a quelque chose d'inconscient qui se joue et comme une parapsychanalyse, j'aurais envie de dire, d'une société, une culture. Et tu parlais à un moment donné de contenant, de forme ouverte, libérée, tout ça. Donc la plupart des objets, en effet, ont ce potentiel. Donc, soit potentiel qui peut générer un nouveau monde, ou l'anéantissement d'un monde, soit potentiel ouvert qui va se développer. Et c'est ce qui va s'opérer, évidemment, puisque je pense qu'il y a certaines pièces qui sont en train de se développer et qui vont, à un moment donné, évoluer, acte après acte, au sein de cette exposition, et donc générer de nouvelles tensions, évidemment. L'enjeu étant à chaque fois de créer un réseau de liens qui permettent en effet des ouvertures et des commentaires différents sur nos recherches. Et donc, la discussion, pour moi, est aussi une manière peut-être d'axer les prochains actes en fonction de ce qui a été dit aujourd'hui.
Ou non dit.
Voilà.
Alors, cette pièce, tu me le disais tout à l'heure, ça, tu me l'as soufflé. Pour toi, elle avait une résonance avec celle qui est... qui soulève toute la pièce des hamacs. Il y a la couleur noire, bien sûr, il y a pareil, des analogies très simples de forme, de couleur, entre le noir et le rouge, parce qu'il y a des petites diodes qui éclairent la scène très, très discrètement. Et il y a une place importante qui est donnée à l'aléatoire. Dans cette pièce-là, dont tu me parlais tout à l'heure, puisque tu n'avais pas prévu forcément que tous les hamacs soient reliés en un seul point. Mais il se trouve que, à mon sens, ça donne une puissance supplémentaire à la pièce, que ces hamacs qui sont les lieux où se reposaient les marins, parce que tu figures comme lieu de leur repos quotidien, mais finalement aussi comme lieu de leur repos éternel, puisque c'est dans leur hamac qu'ils étaient renfermés puis jetés à l'eau. Je trouve que ça fait vraiment sens qu'il y ait un lien central à tous ces hamacs. Et peut-être que tu pourrais aussi revenir sur ce rôle de l'aléatoire par rapport au fait de donner sens à une pièce à un moment, puisque c'est parce qu'il y a ce poteau ici à Kiasma que les hamacs sont reliés, que quelque part les têtes des rêveurs convergent.
J'aimerais dire un espace qui permet des récits, en fait, un espace de temps. Par exemple, ce soir, on crée un récit par rapport à un certain nombre de circonstances qu'on peut amplifier. Et cette question de l'accrochage se fait évidemment par un in situ et à un moment donné. Quoi. C'est évidemment des tentatives, c'est évidemment des observations, c'est évidemment des surprises qui me permettent d'avancer au fur et à mesure. Et évidemment, cet espace... Cette pièce-là n'est pas pensée pour... Elle est pensée pour cet espace-là, mais elle est pensée au moment où je le mets en espace. Et génère, en fait, de nouvelles œuvres possibles. Donc, les branches, qui était un titre préalable, à un moment donné, pour désigner simplement un hamac. Un branle, c'est un hamac. Et devient, en fait, se relie par rapport aux pièces d'archipel, derrière, qu'on a pu observer. Se relie peut-être par rapport à ce genre de pièces. Quoi. Et c'est... Donc, on continue, en fait, cette aventure, j'ai envie de dire, des récits potentiels possibles. Après, si jamais je voulais faire une ouverture par rapport à la petite pièce qui est ici, l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est un peu toi. C'est le guide, en fait. L'étoile du matin, c'est celle qui guide. C'est l'étoile aussi, la seule étoile qu'on observe dans la vidéo là, qu'on est en train de voir. C'est l'étoile du matin qu'on voit le matin, le soir, c'est Vénus. Donc c'est aussi quelque chose qui revient dans l'exposition, qui est ce rapport au désir qu'on retrouve dans la vitrine, avec ses potentiels, ses graines potentielles, des photographies de femmes au jardin, avec éventuellement une chaise. C'est le titre de la série.
Cette pièce Strombe aussi, qu'on n'a pas commenté là-bas, Strombe, ce coquillage voilà. qui est très sexuel, quoi, qui est une évocation d'une muqueuse, quoi.
Aussi, ouais, de ce tourbillon. Évoqué évidemment dans le terme strong, qui est ce mouvement circulaire, et cette sensualité d'un son prononcé qui est par le coquillage, le contact avec la muqueuse même. L'étoile du matin, c'est aussi, juste en anecdote, c'est une arme. Et donc ce que j'aime bien aussi, évidemment, dans tout ce type d'accrochage, c'est les tensions possibles. Donc cette réunion entre Vénus et Mars, à un moment donné, cette espèce de fusion incestueuse, quoi. Et de tout ce qu'elle peut générer, en fait, d'hybrides, de monstres, et de choses refoulées.
Et puis ça vient indexer ce nom qui fait espoir, Étoile du matin, vers aussi la violence, et qui est un sujet qui te quitte jamais, en fait.
J'ai envie de dire que toute...
K1 ne s'en va jamais, quoi.
Non. Il y a cette question d'interpénétration, en fait, à un moment donné, de la violence, évidemment, qui est évoquée par ça, et à la fois du potentiel possible. Quoi. Et On parlait à un moment donné de pourquoi je retournais certaines images. C'est pas une règle en soi. C'est simplement dans ce qu'elles peuvent proposer à un moment donné d'une certaine stabilité retournée, et l'intrusion à un moment donné, prononcer en effet des tensions, des forces. Là, par exemple, une force gravitationnelle ou quelque chose d'un univers, une entité monde qui nous est étrangère. J'ai envie de dire ce pit, l'océan comme masse à la fois informe et à la fois comme masse tenue, quoi. C'est pas l'atmosphère, quoi. Et qu'on retrouve dans The Pit par ce double horizon, quoi.
On va revenir à The Pit tout à l'heure, bien sûr. Si on est face au hamac et qu'on se retourne, on tombe sur des scènes qui peuvent avoir un côté onirique, hein, comme les rêves des marins. Elles ont l'air apparemment simples et elles sont complètement suspendues en même temps. Ce qui est frappant, c'est qu'elles ne représentent que des espaces fermés. Et en même temps, par leur disposition, elles sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il en manque une, quoi. Et du coup, on la cherche. Il y a un carré et puis on veut un rectangle. Le cerveau reconstruit une sixième photo. Du coup, on la cherche et il y a comme une trajectoire de l'œil qui est proposée avec des points de suspension qui sont ces pièces céramiques. Et on en arrive justement à la photo que tu évoquais, qui est comme la part manquante de cette séquence-là. Laquelle photo, là, c'est, pour moi, c'est l'autre grand axe de l'exposition. Laquelle photo, elle va amener, par son renversement, par la couleur, c'est l'apparition de la couleur, au pit, à cette vidéo en split screen que tu évoquais. Peut-être tu peux revenir sur la tension, pour le coup, qui existe entre ces photos et celle de l'île du Diamant, qui a une importance particulière pour toi, en plus. Et par rapport à Edouard Glissant aussi.
Le rapport que j'ai aux images, je collectionne les images. Je collectionne notamment les images liées à l'ailleurs. Et donc la période coloniale m'intéresse particulièrement. Donc, une collection d'images coloniales. Et je crée des images à partir de ça. Et je pense, les images que je vais faire, évidemment, habitées par cette espèce de nuage d'images que j'ai appelé, qui porte le titre en fait du projet initial, Sperm Whale's Dream, rêve de pêcheur très shallow, qui est le nom évidemment de l'installation, enfin de cette réserve, et qui est le nom d'un programme qui génère des images par fusion de pixels des images de cette collection coloniale, quoi. Et donc pendant ce fameux périple, j'étais confronté à des choses, et donc j'ai amassé des images, des lieux. Et certaines que j'ai tirées en images, certaines dont je compose des livres avec, donc qui ont des statuts différents, mais à chaque fois qui ne sont pas finis, qui ouvrent à chaque fois des espaces, des potentiels possibles. Et là, pour le coup, ce projet qui s'appelle Lisière, c'est vraiment cette question à un moment donné de à quel niveau on se retrouve entre les espaces. Et la lisière, c'est vraiment un espace dans lequel on n'a pas accès à l'autre espace. La lisière, c'est ce mur. On sait qu'il y a quelque chose derrière, mais qui n'est pas physique, qui est peut-être dans l'ordre du visuel, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Et l'image du diamant, là, est pour moi une espèce de point de fuite qui se continue, en effet, dans The Pit, dans le gouffre, en fait. Il y a une espèce de glissement, d'où ce retournement, d'où ce vertige, en fait, aussi, que j'ai voulu créer en retournant l'image, et qui est une image directe à Edouard Glissant. Parce que c'est le diamant, la commune du diamant, est là où est enterré le poète Edouard Glissant. Et donc c'est en pèlerinage sur la tombe du poète que je suis allé faire cette image du diamant. Et donc voilà, la fosse commune, Edouard Glissant, etc. Donc l'accrochage s'orientait comme ça, évidemment, existera dans une autre disposition et racontera certainement d'autres facettes, j'ai envie de dire, de ces entités qui sont des objets, des images. Des céramiques. Je suis très attaché à cette stratigraphie de sens qui, à un moment donné, on peut y accéder, en fait. Un peu comme dans l'archipel, où les éléments ont des espèces de couches concentriques qui sont leur existence dans des mondes hypothétiques qui sont les tables et qui augmentent enfin leur potentiel. Vous irez visiter, vous comprendrez un peu mieux ce que j'essaie de signifier.
Peut-être qu'on va s'approcher un peu de la photo du diamant, parce qu'elle a une patine particulière. Donc j'aimerais que tu parles un petit peu.
Donc
Tu me disais, quand on faisait le tour de l'exposition, que ce côté un peu sépia venait d'un défaut, venait d'un accident. Et là encore, il y a une disponibilité à l'accident dans cette pièce.
Ouais, pour la petite histoire, c'est un développement chimique forêt. Et c'est ça, en fait, qui permet l'image. Il y a souvent des choses qui sont de cet ordre-là, en fait, je pense, dans la création de pas mal d'artistes. En fait, c'est ce moment un peu d'inquiétante étrangeté. On est face à un objet qu'on a pensé d'une certaine manière, et puis on est très déçu par le résultat, notamment quand on fait une photographie argentique, on développe, et puis non, des fois c'est dans l'accident, des fois c'est une image mal cadrée, des fois c'est un flou, des fois c'est un défaut d'optique qui, à un moment donné, nous permet une vision décalée, j'ai envie de dire. Et cet aspect réel puis vrai, donc qui est un défaut de chimie au moment du développement, qui a retenu mon attention et en fait qui a permis, d'une certaine manière, d'ouvrir en fait vers un imaginaire lors du sublime, en fait, quelque chose que j'avais espéré, mais pas réussi à faire. Enfin, voilà. Et il y a vraiment quelque chose, voilà, de. La photographie, par exemple, n'avait pas de titre au moment où je l'ai accroché. C'est un projet très récent, j'ai envie de dire, le fait de vouloir le tirer sur ce format qui reprend un peu le Polaroid, l'image instantanée unique.
Et, une grosse marge de blanc.
Voilà. Et qui prononce en plus la pesanteur de l'image. Oui. Et en circulant comme ça, j'ai perdu mon chemin.
C'était par rapport au titre.
Ah oui, oui, le titre. Et du coup, je suis monté l'exposition avec Katia, donc, qui est anglophone, et je lui demandais, mais qu'est-ce que signifie pour toi The Gate, le portail? Parce que je sais bien, entre les différentes langues, il y a toujours des subtilités qui nous échappent, et pour toi, dans ton imaginaire, si jamais le portail ne me convenait pas, The Gate me convenait, pourquoi? Et je lui demande précision, comme ça, elle me dit, mais c'est une porte vers un jardin. Et en fait, c'est ça qui, pour moi, a prononcé à un moment donné le titre, en fait.
Mmh. Une porte vers un jardin. Ouais. Le choix de l'anglais et pas le.
Voilà.
Ouais. C'est un choix qui est motivé par.
Par aussi l'utilisation, l'association à un moment donné d'une personne qui. Je disais, mais le jardin, pourquoi? Je sais pas, mais c'est le jardin. C'est lié. Ouais. Donc après, on l'a développé, évidemment, c'est une porte extérieure, sur des espaces extérieurs, mais il y avait cette question de jardin.
Entre deux espaces extérieurs.
Et qui me plaisait beaucoup par rapport, évidemment, aux tensions par rapport à la Genèse, qui parle, en fait, la première partie du texte qu'on voit apparaître, c'est la fuite du jardin d'Éden. Mm. Puis après, Résincarne, donc à un moment donné, ce monde qui se défait et qui se reconstruit. Archipel, par exemple, pour la petite anecdote, pourquoi archipel comme terme, à un moment donné, pour appeler cette entité monde, archipel, c'est archipelagos, c'est l'ancienne mer. Donc c'est ce qui contient finalement ce qu'on appelle l'archipel. Et d'une autre manière aussi, archipel, c'est le.
C'est comme le négatif de ce que c'est devenu, en fait. Ouais. Ça désigne d'abord la mer, en fait,
exactement,
l'archipel, ouais. Et non pas les amas de terre. Voilà.
Et pareil, je perds le fil au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai besoin d'un guide, en fait. Parce que vous aurez compris que je suis en constant mouvement, en fait. Et que ma pensée se développe aussi dans l'énonciation, quoi. Et c'est quelque chose que je tiens. C'est pour ça que je tiens ce type de formulation, parce qu'elles permettent aussi des récits que je n'aurais pas pu envisager ou qui seraient sclérosés à quelque chose de l'ordre de l'écriture et qui ne fonctionne pas par la parole. Quoi.
Ouais. Alors on va du coup descendre, et c'est un geste qui compte, parce que la pièce dont on parle tout à l'heure s'appelle The Pit, c'est-à-dire la fosse, entre autres. Qui est à la fois la fosse, la falaise, celle depuis laquelle on voit la mer, c'est un peu dans sa position longitudinale, mais c'est aussi la fosse commune, et on aura compris que pour les marins, la mer était la fosse commune, donc c'est hamac qu'on refermait sur les marins quand ils mouraient, ils ont leur suite dans ces images. Et puis c'est aussi la fosse que tu as pu observer en Martinique, où se tiennent les combats de coqs, là où on fait les paris, etc. Donc à travers tous ces sens, pareil, le mot anglais « pit » se justifie par la polyvalence des sens qui véhiculent. C'est pas juste pour faire chic, c'est parce que le mot « pit » contient des choses que le français contient pas en un seul mot. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le mot « fosse », je l'associe pas d'emblée au sublime, et que pour toi, il y a quelque chose de sublime dans cette pièce. Tu cherchais une émotion sublime. Et je trouve que ça, c'est... Bon, c'est l'apparition du mouvement dans l'exposition. Il n'y a pas de pièce en mouvement avant celle-ci. C'est l'image mouvement, quoi, comme disait Deleuze. Pour moi, ça rejoint le point de départ, c'est-à-dire la question coloniale à travers notamment le fabuleux livre de Paul Gilroy qui s'appelle « L'Atlantique noir », qui est une proposition pour comprendre la traite et l'esclavage, non pas par un passage d'un continent à l'autre, mais par la place centrale de la mer, sur un effet négatif qui correspond un peu à ce que tu disais sur l'archipel. Mais j'aimerais que tu reviennes sur cette question du sublime qui est pour toi structurante dans cette pièce dont pourtant le titre ne semble pas faire signe vers le sublime de prime abord, disons.
Le titre, The Pit, en fait, me vient de la lecture d'un poème de Derek Walcott, qui est un poète antillais de Sainte-Lucie. Et The Pit en créole avec deux T, c'est cette espèce d'arène dans laquelle se combattent des coqs notamment, mais aussi des serpents et des mangoustes et potentiellement des hommes. Et c'est un lieu où se joue aussi la fortune des hommes, puisque les gens parient beaucoup d'argent dans cet espace-là. Et la fortune, c'est le destin. En fait, et dans le poème de Derek Walcott, il y a un navigateur qui arrive un militaire qui arrive sur un territoire et qui demande à la population, mais où sont votre histoire, où sont vos monuments, en fait, on ne voit rien de tel. Et son interlocuteur lui dit, ben, ils sont là, nos monuments. Ils sont dans cette, in this gray vault, sur ce caveau obscur, gris, quoi. Et évidemment, il faisait référence à ce tombeau dans lequel, ben, les populations déportées d'Afrique avaient perdu une partie de leur mémoire et de leur histoire en traversant cet Atlantique, évidemment par les corps qui avaient été projetés dedans, donc un caveau, un véritable caveau, et à la fois à travers la mémoire et tout ce qui avait été en fait transformé au rang d'objet, de meubles, qui était passé du statut d'humain au statut de meuble en traversant simplement cet espace, quoi. Cet espace de tous les possibles, comme tu disais, Jeroy, mais aussi cette entité sombre, cette mémoire presque insondable et à la fois présente. Voilà. Et donc il y a cette espèce d'astre en fait qui se balade d'un écran à l'autre, qui ne sort jamais de l'écran, mais qui rejoue d'une certaine manière des cycles et qui présente cette entité fluctuante. C'était important pour moi d'avoir comme perspective à l'exposition en fait une visite d'un espace dans lequel on se sent stable, les choses soient équilibrées, circulent. Et de basculer à la fin en fait sur une fenêtre sur le monde, sur l'extérieur, et qui soit à un moment donné cette forme instable. C'est-à-dire que d'un coup, on était en effet dans ce navire négrier, peut-être, qui était en train de nous emmener vers une destinée qui nous échappait, quoi. Mais qui était-on sur ce navire négrier? Était-on le captif,
le capitaine,
l'engagé, prisonnier, enfin voilà, etc.
Et sur la dimension proprement sublime, sur le fait que tu emploies le terme de sublime, pour toi, ça renvoie à quoi ?
Ouais, le sublime, il est non pas attaché à une valeur purement chrétienne, mais au texte de bataille, en fait. Je parlais de béance aveugle à un moment donné, dans une discussion, et de cette espèce d'envers du regard, cette chose qui finalement, cet œil qui se révulse et qui à un moment donné nous montre un monde intérieur qui est également habité par tout ce qu'on a fait, rentrer, quoi. Donc moi, comme contenant une partie du monde de ce qui a pu rentrer, et qu'est-ce que j'en fais avec. Et donc, il y a quelque chose qui se joue ici, et de l'ordre de j'ai envie de dire, de la contemplation extatique, quoi. Et à la fois, enfin, qui nous écrase, qui nous dépasse totalement, quoi, et qui nous fascine, quoi.
Pour toi, il y a une sensation d'écrasement à avoir réalisé cette pièce et à comme d'être terrassé par sa puissance, quoi.
C'est joliment dit, ouais. En tout cas, oui, c'est, je suis assez... Je reste fasciné, en fait, par les... J'ai pas de sentiment d'appropriation par rapport aux choses que je prélève, en fait. C'est souvent des choses que je prélève et que je décide de montrer, agencer différemment. Et du coup, je reste fasciné parce que ce sont des choses qui restent constamment étrangères. Voilà. Cette dimension-là est importante. De pas faire un mien, de ne pas délimiter, de ne pas définir, de ne pas enfermer dans quelque chose qui me rassure, mais au contraire, de voir des champs pour être constamment dans le mouvement. Ouais.
Alors, tu disais justement que le soleil, ça ne ressortait jamais du cadre, ici. Et en même temps, on assiste à une infinité de variations possibles, de nuances. Et Olivier, par ailleurs, suggérait tout à l'heure, dans la première pièce, qu'on mettait dans ton cerveau. Ce que je trouve très moi, c'est ça tout de suite que j'ai pensé, en fait. J'ai pensé à Shining, quand tu m'as montré les ébauches du travail, non pas sur le côté funeste du film, mais plutôt sur le petit garçon qui se déplace en tricycle à travers les couloirs, et ces couloirs sont la tête du personnage principal, quoi. On est en fait dans les méandres de sa pensée. Et du coup, en voyant ces images et en faisant un petit peu la somme de ce qu'on a traversé, je me demandais si pour toi, il y avait un ensemble fini d'obsessions à travers lesquelles tu créais des parcours infinis, ou si les obsessions, elles aussi, sont infinies.
C'est difficile de pouvoir sonder, en effet, un espace qu'on cherche à étendre constamment. En tout cas, je retrouve énormément d'obsessions, et je pense qu'on les retrouve malgré moi, en fait, dans l'ensemble des pièces, ce qui fait des liens. Mais je pense que je suis capable de porter encore pas mal de choses. Je suis assez bon public pour ça, ouais. ça marche assez bien chez moi.
Donc à suivre, pour l'extension du domaine des obsessions.
Exactement.
Bon, voilà pour moi, pour un parcours possible de ce que j'ai cru... entendre résonner entre ces pièces dans le travail de Vincent. Mais c'est bien aussi peut-être que ce parcours, il ne reste pas juste dans un ping-pong verbal entre nous.
Ni entre nous, mais peut-être entre nous.
Entre vous.
C'est ce que j'espère faire, en fait, pendant les différents accrochages ici, les rencontres qu'on va opérer. C'est en effet créer, en fait, ces connexions possibles et à un moment donné... élaborer quelque chose ensemble, ce qu'on appelle la culture. Enfin, c'est un grand mot, mais qui dit des choses assez simples, en fait, et qui, je pense, sont importantes aujourd'hui. Ouais.
Merci à vous. Moi, je voulais ajouter une chose, en fait, ce qui est intéressant pour partager le travail de quelqu'un qu'on présente ici à Kiasma, c'est qu'il y a c'est aussi partager une certaine forme d'intranquillité, puisque c'est un peu ça qui fait qu'on...
D'ailleurs, on s'est rencontrés sous une mer de l'intranquillité.
Sous une mer de l'intranquillité. Moi, j'étais venu voir ton exposition à la Seine, aux Beaux-Arts. Je dois dire un truc qui peut paraître peut-être étrange en introduction, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis vraiment un bon client pour la sculpture. Donc, on peut dire que c'est vraiment un domaine qui ne m'intéresse pas. Et du coup, je pense que je regarde pas la bonne chose, quoi, là-dedans. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires. Et en art, les objets m'intéressent pas beaucoup, en fait.
C'est narratif.
Non, mais c'est après une appétence réelle, comme par exemple, moi, je j'aime pas la Formule 1, et donc je peux pas avoir une théorie très précise sur cette question-là, mais il se trouve qu'effectivement, la cristallisation en objet est pas l'endroit qui m'intéresse le plus. Ici, d'ailleurs, vous noterez que l'espace dans lequel on est s'appelle un espace Kiasma, et c'est pas un centre d'art, donc on n'est pas dans un espace qui concentre, mais un espace qui troue. Et en fait, pour rejoindre ce que vous disiez, évidemment, moi, j'ai parlé aussi avec Vincent de l'hypothèse de Gilroy, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans ce livre, L'Atlantique Noir, pose l'hypothèse qu'il y a donc un continent résiduel, un continent atlantique, dans lequel se fabrique, dans la tragédie de la déportation des esclaves, un nouveau peuple,
et donc dont le peuple caraïbe est en fait originaire de l'océan, et il n'est pas originaire de l'Afrique. Il est originaire de ce qui va se passer dans la séquence de l'océan, et voilà, qui va fabriquer un peuple particulier, dont l'histoire est particulièrement inscrite dans la question de l'océan. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la question de l'océan, pour la simple et bonne raison que ça revient à cette question du rapport aux objets. Si on regarde le monde en regardant la carte du monde comme une carte océanique, on peut simplement se rendre compte que finalement l'histoire continentale est périphérique à l'histoire de l'océan. Et donc ça retourne nos visions de la carte, c'est regarder la carte et l'océan comme un espace plein. Ce qui reviendrait à l'hypothèse que moi j'ai dans mon rapport aux objets, je pense que dans le travail avec Vincent, et c'est ce que je pense cette exposition réussit assez bien, c'est que détrompez-vous, c'est plutôt entre les objets qu'il faut regarder. Donc quelque part on a fait un tour des objets, et ce qui vous reste à faire, c'est évidemment la partie, ce que les objets en fait produisent comme contre-forme, et ce que raconte en fait leur relation et ce monde en relation dont parle très bien Édouard Glissant, c'est-à-dire absolument pas un monde en relation au sens très friendly du terme, plutôt un monde dont l'espace de la relation crée un ensemble de tensions, etc. Ce qui m'est venu en réfléchissant, en échange avec Vincent également, c'est une autre chose, mais qui découle cette première chose, c'est de dire, et c'est ce que la réserve met en scène une sociologie animiste, la vie sociale des objets quand les hommes sont pas là. C'est une autre idée qui m'est venue hier soir, et je me suis dit, en fait, c'est ça une réserve, c'est quand on laisse tranquille les objets, et qui peuvent, donc, entre eux, établir une histoire dans laquelle il n'y a pas de centralité humaine. C'est-à-dire qu'en gros, on imagine qu'on est un, et que dans cet espace de réserve, il y a, on dirait aussi un peu la chambre des enfants en lit superposé. Moi, j'ai une famille nombreuse où on dormait, voilà, comme ça, comme dans un peu un bateau, dans les lits superposés. Et je retrouve ce côté-là où c'est une autre affaire qui se joue.
Que se passe-t-il quand on éteint la lumière ?
C'est un peu ça. Et là, je me suis, parce qu'on finalement la question aussi de, parce qu'il y a quelque chose qui se joue autour de la question de montrer, notamment la
muséographie. Se passe sous la surface.
Oui. Voilà. Et la muséographie, d'ailleurs, même de la question muséographique, on l'a un peu évoquée, mais oui. Traverse aussi évidemment l'exposition ici avec la forme de la réserve, voilà, et cette réserve-là qui est donc quelque part, qui est assez intéressante parce que autant on est censé prendre un ensemble de décisions qui ont une certaine forme d'autorité, raconter quelque chose à travers faire une exposition, on est dans le régime de la non-décision quant à ce que la réserve raconte. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir dans les musées ce que sont les réserves, parce qu'elles sont, c'est des espaces politiques, parce qu'il y a ce qui ne va pas montrer. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on ne saura pas du récit qui est raconté dans la lumière officielle, ce qui n'a pas été montré, ce qui a été retenu pour plein de raisons, ce qui n'est pas signifiant au premier abord, ce qui ne va pas aller dans le sens du récit que raconte la mise en espace. Donc, quand je disais que je n'avais pas un intérêt pour la sculpture ou pour les objets, c'est parce que, quelque part, la question du récit et ce qui va se passer entre, et qui est quand même une dynamique assez émouvante, mouvement, et qui est une dynamique aussi qui évidemment parle de la question magique et magnétique que peut-être l'Atlas aussi archipel.org joue assez bien, c'est-à-dire l'Atlas représente assez bien les relations en fait, parce qu'il peut y avoir plein de documents, mais ce qu'on regarde et ce qu'on voit, c'est quand même un peu comme des espèces de champs magnétiques que fabriquent les objets, et ça je trouve que c'est... Oui, voilà, ce qui va se créer dans une espèce d'histoire. Mais l'histoire, somme toute, invisible, si tu la rends pas singulièrement visible à cet endroit-là, c'est-à-dire d'où viennent les choses et comment elles ont... Et ça me semblait intéressant. Et c'est vrai que tu l'as cité, je trouve que c'est un aspect qui est extrêmement, je trouve, important à souligner, à se figurer, parce que c'est un truc qu'on ne pense pas souvent dans ce vocabulaire-là. C'est vrai que ce que fait, en fait, l'esclavage aux esclaves, c'est que ça transforme les êtres humains en objets. Et c'est assez important, parce que quand on réfléchit dans une dynamique animiste, on comprend que l'esclavage est un processus animiste. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des objets qu'on ne connaîtra plus, qui vont perdre leur nom, et quelque part, donc on fabrique de l'obscurité. D'où vont revenir, en fait, des humains, mais par un autre chemin. C'est-à-dire que L'esclave est celui qui devient humain après avoir été un objet, ce qui n'est pas notre cas. Et donc c'est aussi une histoire mystérieuse de l'apparition humaine qui est hors de la biographie des humains, qui est un jaïsme. Et donc là, il y a une histoire aussi, moi quand je vois ces objets assemblés, ça renvoie aussi à la question, parce qu'on ne peut pas regarder que en fait, là, cette question uniquement radicalement violente de l'histoire de l'esclavage, il faut aussi la regarder comme une histoire incompréhensible, impossible à comprendre, qui résiste à la compréhension.
Comme un germe.
Voilà. Qui est le secret de quelque chose qui va se passer après et qu'on ne pourra, dont on a, dans un geste de captation, rendu insondable. Donc là, ça retouche à la sonde. C'est le moment opaque. Et donc là, effectivement, on est à la fois là et on est à la fois, je trouve, dans la cale du bateau, bon, signifié, je trouve, à plusieurs reprises. Et peut-être une dernière.
Une scène originelle.
Oui, mais donc insondable. C'est-à-dire qu'on recrée un espèce de moment d'origine.
Ouais. Donc invisible.
Totalement invisible. Donc il suppose en fait, et je pense que l'exposition de Vincent en parle, et c'est un sujet évidemment qui m'intéresse beaucoup, qu'on ne pourra pas le comprendre complètement par des outils rationnels. C'est-à-dire qu'on recrée des conditions d'une certaine forme de présence magique d'êtres humains qui sont des objets et qui deviennent des êtres humains, qui rejaillissent dans l'humanité via la fonction objet. Ça pour moi c'est une chose importante, et je trouve qu'après, une dernière chose sur l'exposition, parce qu'on a toujours forger ici le lieu en compagnie des artistes comme un lieu mouvant. C'est vrai que moi, j'ai utilisé dans d'autres circonstances la scène du bateau comme scène solide et en mouvement. C'est aussi un sujet d'une action que j'avais réalisée et qui se trouve assez importante. Je trouve que voilà, la proposition de Vincent me semble être l'équivalent assez intrigant du bateau qui est le sol dur mais en mouvement. Donc on est sur une terre ferme qui bouge. Je trouve que là, l'exposition raconte quelque chose aussi de ce côté un peu paradoxal.
Qu'on appelle un pont, d'ailleurs.
Voilà, on est on un pont, donc on est dans un espèce d'enracinement mouvant. Comme tu disais, ma pensée est toujours en mouvement. Il faut se rappeler qu'au départ de ce cycle de travail, il y a quand même la traversée atlantique que tu choisis de faire, qui est donc une espèce de tentative d'une verticalité impossible, quelque chose comme ça qui est toujours en mouvement et qui est, je pense, assez signifiant dans ce qu'on voit, voilà, dans le vocabulaire qui va venir ici, qui hante, je dirais, encore la chose que tu nous proposes aujourd'hui. Voilà pour moi pour aujourd'hui.
On continue la discussion autour d'un verre.
Merci à vous.
Merci.
Merci.